Radio Kaléidoscope 97 FM présente Au ras des rues, l'émission qui prend de la hauteur.
Bonjour et bienvenue sur Radio Kaléidoscope à l'émission Au ras des rues, l'émission qui vous fait prendre de la hauteur. Donc aujourd'hui, on a un invité, Élie, qui est étudiant en architecture. Et toujours Marie-France et Benjamin du Crieur de la Villeneuve. Enfin,
bonjour.
Marie-France de l'Union de quartier du Village Olympique. Aujourd'hui, il y a un absent, Antoine, qui n'a pas pu venir. Voilà.
Et il sera donc fouetté.
Bon, n'exagérons rien.
Alors, c'est toujours Patricio à la technique.
Exactement, Patricio à la technique qui nous aide à construire nos émissions. Donc, pour aujourd'hui, on aura une composition musicale qui sera plutôt rap marocain. Donc, on écoutera deux groupes de rap du moment, mais qui ont déjà quand même une bonne quinzaine d'années. Et on commencera par Ben avec l'agenda du quartier, enfin des quartiers sud, et un brin d'actualité sur le roulement des équipes au niveau de la mairie. Ensuite, on aura donc un petit point avec Marie-France sur
le lancement de la semaine de la solidarité internationale.
Voilà, moi je vous lirai un texte que je trouvais intéressant. Et puis on aura aussi un petit montage des ateliers de rue de Madame Rutabaga. Et enfin, on aura tout le temps de faire une interview riche sur la résidence universitaire du CROUS, du Village Olympique, grâce à Élie qui nous apportera un regard éclairé sur ce quartier.
Bien sûr.
Voilà. Tout de suite, Ben, est-ce que tu peux nous donner l'actualité?
Alors, je vais vous parler mercato. Est-ce que vous savez ce que c'est que le mercato? Est-ce que vous suivez?
C'est le marché. Ah non.
Oui, c'est ça. C'est de l'italien. Ça veut dire le marché. C'est le marché des transferts en football. Et donc là, en ce moment, dans les centres sociaux, c'est un peu aussi le marché des transferts. Tout le monde bouge de tous les côtés. Ah. Oui, tu n'avais pas tout de suite vu là.
Le rapprochement.
Ouais, bon, des fois, je vais chercher un peu loin. Donc, en fait, j'en avais peut-être déjà parlé à l'antenne. La ville de Grenoble fusionne les postes CCAS, donc Centre communal d'action sociale, et les postes Ville de Grenoble. Et du coup, ils ont lancé une bourse à la mobilité pour que tous les employés des centres sociaux puissent faire des choix et décider là où ils voulaient aller. Donc, ce qui fait que tous les agents de développement locaux, donc ceux qui sont agents de développement local, pardon, qui sont censés animer les centres sociaux, tous ces gens-là bougent. Donc, je vais vous parler des transferts là, qu'il y a sur le secteur 6. Donc, secteur 6, c'est Villeneuve, Village Olympique et Vigny-Musset. Donc, il y a trois centres sociaux. Il y a la maison des habitants des Baladins. Il y a celle du Patio et la maison des habitants Prémol au Village Olympique. Donc, alors, sur la maison des habitants des Baladins, Boris Kolitschev, qui était l'ADL, l'agent de développement local en poste, s'en va. Il est missionné sur la démocratie locale, à l'échelle de la ville. Donc, démocratie locale, il va s'occuper de tout ce qui est conseil citoyen, table de quartier, etc. Et la nouvelle directrice de la maison des habitants s'appelle Véronique Dafozaghi, et qui était ADL en poste à la maison des habitants à Tesserre. Donc voilà, c'était pour la maison des habitants des Baladins. Sur la maison des habitants du Patio, la directrice Madeleine Bougnou, elle est nommée directrice du territoire du secteur 2. Donc elle s'en va vers le centre-ville. Pour l'instant, il n'y a pas encore de remplacement. Donc il n'y aura pas de directrice ou de directeur pendant un moment à la maison des habitants du Patio. Salima Demim, qui était agent de développement local au Patio, est nommée directrice de la maison des habitants Prémol. Donc elle m'a rendu du grade, comme on dit. Et Abdessamad Habib, qui était lui aussi agent de développement local au Patio, est lui nommé à la maison des habitants Bajatière, donc c'est secteur Sainte-Bajatière, si je...
À côté de l'abbaye, oui.
À côté de l'abbaye, oui, tout à fait. Et il y a une nouvelle agente qui arrive, qui s'appelle Pauline Voilin. Et enfin, sur la maison des habitants Prémol, donc on a dit l'arrivée de Salima Demim et Abdelkader Berail, qui était l'ADL en poste, reste en poste. Voilà. Okay. Et pour compléter le panorama, Pierre-Loïc Chambon, au grand regret de Morgane, s'en va. Il est nommé sur une mission de démocratie locale. Donc ce sera à l'échelle de la ville comme Boris. Et pour l'instant, il n'y a pas encore de remplacement, donc ça fait qu'il y a quelques postes vacants sur le quartier.
C'est pas une remplaçante qui doit venir ?
A eu peut-être plus d'informations que moi alors dans ce cas-là.
Il nous a évoqué il nous a évoqué ça à la rencontre des conseils citoyens indépendants qui ont eu lieu à la mairie là, mm-hmm. quelques samedis en arrière.
Voilà. D'accord. Bah, je sais pas, pour l'instant ils avaient ouvert le recrutement en externe vu qu'ils trouvaient personne en interne. Donc,
mais il fait la transition.
Il fait la transition en attendant. Voilà. Et donc tous ces changements auront lieu au courant du mois de novembre.
Voilà. Et d'ailleurs, il y a aussi des roulements au niveau des équipes de l'antenne de proximité.
Oui.
Avec donc Franck Quéré qui nous suivait sur le projet de banc avec les enfants du centre de loisirs de la CL des Baladins et peut-être des panneaux de signalétique qu'on devait fabriquer avec les enfants de Madame Rutabaga. Donc voilà, j'espère que sa successeur, je ne sais pas si on accorde,
celle qui va lui succéder.
Voilà, exactement. Nous suivra sur ces projets-là et nous mettra en lien avec les équipes techniques parce que il faudrait bien que ça.
Oui, je crois qu'il assure aussi la transition.
Oui,
de toute façon, tous les gens assurent la transition le temps que les nouveaux arrivent.
Mais on espère que les personnes qui arriveront seront motivées pour continuer les projets. C'est surtout ça. Ok, très bien, merci.
Une petite partie agenda peut-être ?
Eh bien, tout à fait.
Allez, on part sur l'agenda. Alors, à l'agenda du Crieur de la Villeneuve, vendredi 13 novembre à 19h, concert d'Antonio Placer à la maison des habitants des Baladins. Marie-France Hoche-la-Tête, tu connais Antonio Placer.
Voilà.
Qui est donc un artiste et poète.
De longue date, oui.
De longue date, tu le connais. Donc artiste et poète de Grenoble. Il vient d'être nommé...
Galicien de Grenoble.
Galicien. Il est galice.
D'origine
galicienne, d'accord, très bien. Il vient d'être nommé à la direction du théâtre Sainte-Marie-d'en-Bas, qui est dans le quartier Trécloître. Lui aussi, il a pris du grade. Mmh. Et donc, il se produira donc en concert le vendredi 13 novembre à 19h à la Maison des Habitants des Baladins. C'est sur la place des Géants. Et si vous n'aimiez pas la musique galicienne, et ben vous pouvez toujours vous rabattre sur un karaoké. Donc, ce sera aussi le vendredi 13 novembre, cette fois-ci au Baratin. Ce karaoké sera précédé d'une dégustation de bière locale, donc il ne faudra pas trop non plus déguster de bière si on veut bien chanter après. Ça se passera au Baratin, donc c'est au patio, et ça partira de 18h30, vendredi 13 novembre.
Mais de toute façon, au karaoké, depuis quand le but est de bien chanter ?
Oui, mais il faut quand même que les paroles soient intelligibles. Après, ça peut permettre de chanter dans d'autres langues. Par exemple, moi, je parle très bien russe quand j'ai quelques vers. Bref. Et pour finir, je vous le dis un peu en avance. Vendredi 20 novembre à 18h aura lieu une conférence de Saïd Bouamama. Donc, Saïd Bouamama, c'est un militant associatif de très longue date. Il a fait la marche pour l'égalité et contre le racisme en 1983. Il a été dans l'actualité ces derniers temps parce qu'il a écrit un livre avec Seydou, qui est le chanteur du groupe ZEP, Zone d'expression populaire. Tous les deux, ils ont co-écrit un livre qui s'appelle Nique la France, devoir d'insolence. Et ils avaient eu un procès de la part d'une association d'extrême droite. Voilà. Et c'est aussi un des membres fondateurs du Front uni des immigrations et des quartiers populaires.
Oui, Marie-France. Il était là le 26 septembre à Grenoble, et Chirol, à la maison. À l'auberge de jeunesse où il y avait un colloque sur la tricontinentale. Mmh.
Voilà. Et donc il revient donc à Grenoble le vendredi 20 novembre à 18h. Donc ce sera à la salle polyvalente des Baladins, 85 Galerie des Baladins. Sur le fonctionnement, ça sera une partie table ronde entre habitants, enfin entre gens qui viennent assister à la conférence. Et après, c'est de Bouamama prendra la parole pour parler de tout ce qui est quartier populaire.
Et qui organise cette soirée ?
C'est tout un collectif d'associations, donc je peux les citer. Il y a Mixité, Modus Operandi, la Coordination Nationale Passons-nous, la Régie de Quartier Villeneuve Village Olympique, l'Union de Quartier Villeneuve 2, Villeneuve Debout, et tout ça, c'est dans le cadre de l'Université Populaire de la Villeneuve en préfiguration. Et d'ailleurs, si vous êtes intéressé par cette Université Populaire, vous pouvez noter dans vos agendas le 24 novembre, qui sera un lundi, mardi... vendredi 20, samedi 21, dimanche 22, 24, donc ça sera un mardi 24 novembre à 18h à la MDH des Baladins, réunion sur l'Université Populaire. Voilà, c'est tout.
Merci Benjamin. Donc on va se faire tout de suite une petite pause musicale avec Yadenia du groupe Ashkane, qui est un groupe de rap marocain qui s'est formé aux alentours de 96. Et qui a gagné le premier prix de la catégorie rap et hip-hop à une édition du Boulevard des Jeunes Musiciens de Casablanca. Voilà, donc le Yadenia est un morceau de leur deuxième album, HK 1426, qui fait référence au calendrier de l'Égir et qui est donc est sorti en 2005. On écoute.
ما شايفه انا عفو لا المشكل فهاد ارضي ماذا تيصفو خصك تكون زع عندك صلاق اللي زلقو تزلفو وقت كتيفقو قبل ما يقطع الطرف طرف مش عارف تيجي جوج كلمات يكونوا خلاف طرف طفق المين ترتاح اشرب امراض تخاف نسيت تبقى غي مع الخاوي مخوي هو بلفا
اكون جي ماي تايم توت بتيت بوز ادوسير ما بوزي تو بوزي لا تي تروب بوزي روزي لو راكونتي دي جولي شوز تو دير تو فوا لا في اون روز اتر سور سو جلوب سي لوسموز جي ماي تايم تو دير مي Ça serait de mentir, et c'est rien n'est garanti. Petit, puis partout ça explose. Ces mots sont pour ces petits bonhommes hauts, oh, comme trois pommes pommes. Mais dans ce monde, l'homme ne pardonne plus. Raille-moi.
Pourquoi lui-même j'ai plus rien, Delia? Dis-moi, dis-moi pourquoi je me sens si seul. Pourquoi lui-même j'ai plus rien, Delia? Dis-moi, dis-moi pourquoi je me sens si seul. Et pourquoi j'ai plus rien, Delia? De moins en moins d'amour dans les cœurs. Et pourquoi j'ai plus rien, Delia? De moins en moins d'amour.
قالوا احنا على الخاوي كان ضيفو شايفو الهم حضر معاك وانت عارفو وانا عارفو المشكي غيتا هو عارفو ايه ارا ما طير تبغيت مزاف عليه بغيت ندير الموزيق الناس قاع مزوقة من تحت الدف بلان قبل الزوقة خلي اللي بغيت يطير يجيبها فرصو
المهمة الرياليه حياتي دين المهمة جات وكنت باش نطير بجناحي صاف المهمة عارف الدنيا صعيبة مخرج انياط وبينا بينا وعارف لقيتها صعيبة وكيف العالم شكون يديما اقول لي واش تواجه الدنيا واش واش اقل الهري دري وانا فات فات قوتنا بالخاوي من سكل الغير وبات وقولي شحال من واحد طاف واف لسواك
يا دنيا
مش تبقوت البلاز ما كان ما يدار ولا جباني ما دام جافة الدنيا دار الوقت عاش ما سمات ما خلات في الشباب وهو حي وعايزين مثال واد كلاس الضمى تكتو فقط جوز وفخم شاب شاب سلامة شتي زعمة عمشات على عيني بابا ما فهمتي في الخيح اللي عليها النمى بين راسو ويخمى وشو مش تايب خي لما كان غيزة
تهزم غادي توب ولا يبقى غادي درهم بل وقول هادشي عليا مكتوب
لا 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 الدنيا ما دايما دايما الله ورسول احمد القلوب هاد الخير ما تنكا عليما خلص لي المنار ودو ما الضام والحلال الحرام واللي خازم بالدنيا ما خازم عقلها
يا دنيا
Écoutez l'émission Aura des rues sur Radio Kaléidoscope. Donc on était en train de... Voilà, on a fait un petit point actu avec Benjamin Ducrieur et en fait, Marie-France, tu vas pouvoir compléter cette actualité avec un petit point sur l'inauguration du stade...
Qui a eu lieu, l'inauguration a eu lieu donc le dimanche 8 novembre, toute la journée. Personnellement, je n'ai pas pu y assister, mais il y a eu des tournois de foot, la batucada a été présente, il y avait des groupes de... les petits qui font du karaté ou du... Et des arts martiaux, il y a eu de la musique, je crois, et toute la journée avec une inauguration officielle, donc avec le maire de Grenoble qui a dû donner le coup d'envoi pour les matchs sur le terrain.
Il y avait Sadok Bouzaïen aussi, l'adjoint au sport.
Oui, l'adjoint au sport. Oui, je crois qu'il y avait une ambiance intéressante. Tous les footeux du village olympique, bien sûr, étaient là. Les anciens, ceux qui sont nés dans le village et qui ont maintenant déjà, qui sont des pères de famille, se retrouvent aussi. On sait qu'au niveau du foot, même ceux qui sont partis loin viennent une fois par an se retrouver au village olympique. Je crois ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a une identité forte quand même et qu'il faudrait essayer de la comprendre, mais elle y est. Au village olympique.
Bah, c'est vrai que le stade est vraiment au centre du quartier. Pour y avoir déjà joué, voilà, on est à côté de la MJC Prémol, de la Maison de l'Enfance. Voilà, c'est vraiment au centre. Après, par contre, j'y suis pas passée. Qu'est-ce qu'ils ont fait comme travaux?
Donc, la promesse de campagne électorale et une demande qui était très ancienne, c'était de faire un stade en terrain synthétique. De le mettre aux normes pour qu'il puisse y jouer des matchs de niveau de qualification. Je ne connais pas les détails techniques, hein. Peut-être que toi, Benjamin, tu en sais plus sur le foot. Mais donc, il y a des tournois importants qui pourront se jouer là, qui ne pouvaient pas le faire avant. Alors, ça implique aussi qu'il soit peut-être moins accessible à tout le monde. Je ne sais pas s'il y aura un gardien qui donnera les clés. Bon, il y a une piste pour courir autour. Il y aura sûrement des aménagements qui vont être faits pour que ce soit accessible à tout le monde, quoi, parce que c'est quand même le stade du village olympique. Voilà, c'était
d'accord.
Attendu et depuis longtemps.
Ils ont installé des gradins ou pas? Non.
Non, je ne crois pas. Hein. Non, non.
Il faut que ce soit quand même un gros stade pour que...
Oui. Oui. On se met autour de la barrière, là, je pense.
Avec une pack de bière.
Voilà.
Décidément.
Il y a eu des échos dans le Dauphiné
Libéré. La dégustation, c'est seulement au baratin, Benjamin, s'il te plaît.
Non, mais tu n'as jamais assisté à un match de foot de niveau district, hein, ça se voit.
Non, c'est vrai que je ne suis pas très fan.
Et l'autre chose dont je voulais faire écho, bah, c'était que cette semaine, on l'avait déjà évoqué ici, la semaine de la solidarité internationale qui est à un niveau national. Alors, pour nous, la semaine sur Grenoble, c'est un collectif d'associations qui se met en place pendant le courant de l'année et qui essaye d'organiser cette semaine de la solidarité internationale qui va durer 3 semaines, en fait, ici à Grenoble, puisqu'on a commencé déjà ce week-end du 7-8 novembre. C'est pour interpeller un petit peu le grand public sur la solidarité internationale, sur l'importance que ça peut avoir, surtout dans cette période où on a tendance à se replier un peu sur soi et sur ses propres identités. Et donc, voilà, pour faire connaître aussi ce qui se passe à ce niveau-là sur la commune. Donc, ces dernières années, le collectif d'associations prépare entre autres choses, un week-end commun. C'est peut-être évident comme ça quand on en parle, mais c'était pas évident de mettre ensemble tout le monde pour préparer un seul événement commun qui a lieu donc à l'ancien palais du Parlement sur la place Saint-André ou l'ancien tribunal, et qui était donc un événement plutôt festif puisqu'on avait le samedi matin avec la batucada de la Villeneuve, j'aurai l'occasion d'en reparler, qui était là avec une trentaine d'enfants qui ont animé les rues de Grenoble, tout le centre-ville, entre les différents marchés qui existent, avec en même temps des slogans qu'on avait travaillé ensemble sur la solidarité internationale, sur la planète qu'on demande aux adultes de garder pour nous les enfants, de garder la planète, en lien avec les thèmes sur le changement climatique et la conférence de Paris sur le climat qui va avoir lieu la fin novembre et décembre, la COP 21 à Paris. Voilà. Ça, c'est avec tous les gouvernements de presque toute la planète, mais on ne sait pas ce qu'il en sortira. Mais du coup, il y a eu une mobilisation importante, notamment à travers les alternativas dans toute la France, et des choses qui continuent et qui se préparent pour essayer de faire pression sur ces gouvernements pour qu'ils modifient un petit peu leur attitude pour que ça puisse changer réellement au niveau du climat. Il y avait il y avait une permanence des associations participantes à l'ancien palais du Parlement là pour qu'on puisse rencontrer les associations, discuter. Donc c'est un peu au hasard des personnes qu'on a pu contacter dans la rue. Il y a un bon accueil, oui. Pas énormément, mais il y a eu du monde. Et il y a, en tout cas, pour ce qui s'est fait dans la rue, il y a un très bon accueil. Mmh. Il y a un très bon accueil. On craque quelquefois quand on voit les petits qui jouent à la batucada. Et les gens posent des questions. Et pourquoi est-ce qu'on fait ça? Donc, c'est une occasion. Et le dimanche matin, on avait aussi, sur la place Saint-André, l'école Porteur de Rêves, qui sont des artistes de rue, on va dire, hein, à la fois musiciens. On avait l'accordéoniste, celui qui joue du violon, de la guitare, celui qui joue des jeux de cirque, hein, les jonglages, comment on appelle ça, les torches et toutes ces choses-là, en même temps en essayant de faire intervenir les passants. Ça fait tout un attroupement, il y a tout un spectacle qui se produit, et on invite à venir voir ce qui se passe à l'intérieur, parler sur la solidarité internationale. Il n'y a pas énormément de monde, mais il y a quand même un intérêt. Voilà. Ça s'est terminé avec quelque chose de plus réflexif, on va dire, une réflexion sur qu'est-ce que c'est que l'internationalisme. Ce n'est pas comme ça qu'on pose d'habitude la question à la solidarité internationale, mais c'était aussi pour décloisonner un petit peu les mots et les concepts sur les relations qu'on a avec le reste du monde, hein, à travers le témoignage et la mémoire de plusieurs personnes qui ont donné leur vie dans d'autres pays pour ça, et puis des échanges en direct avec des jeunes au Chili. Quelle conception ils avaient, comment ils voyaient les choses et qu'est-ce qu'ils faisaient sur place. Eux sont plus là-bas en le souci d'être en lien avec tous les autres pays, les autres jeunes du cône sud, Uruguay, Argentine, Paraguay, Brésil, Pérou, Bolivie, puisque s'ils veulent que l'échange change, ça ne peut pas se faire dans un seul pays uniquement. Voilà. Et puis on avait invité dans la partie où d'autres organisations pouvaient parler de ce que c'était pour eux l'internationalisme, la solidarité internationale. On avait invité des organisations qui pouvaient avoir une expérience de solidarité internationale ou une expérience internationale. Et on avait invité la Batucavi, enfin les plus grandes, la Batucavi avec Willy, qui sont venus un peu témoigner de ce que ça leur apportait, comment ils ont vécu ces rencontres. Ils sont allés notamment au Brésil, ils sont allés au Maroc, je crois, ils sont allés au Portugal, ils ont quand même plein de projets à l'international, et ça, je crois que c'est important pour eux. En même temps, ça leur demande énormément d'efforts, hein. Il y a une discipline, un effort, parce que sinon, on n'y va pas. assez simple. Et j'ai trouvé intéressant qu'à travers ça, ils définissent en même temps leur propre identité et leur propre fierté d'être de la Villeneuve. Ça, je crois que c'était important.
Et puis, par exemple, là, quand ils ont été à Rio à l'occasion des, de la Coupe du Monde l'année dernière, voilà, ils ont mis logé
dans les favelas, ils ont partagé.
Voilà, pas,
et leur témoignage, c'était que ben, on était plus tranquille à la favela que, qu'à l'extérieur. On se sentait complètement en sécurité. Et à travers la musique, ou en tout cas, ce qui ressortait de leur témoignage, c'était que affectivement, il n'y avait aucune distance, aucune différence avec ceux qu'ils pouvaient rencontrer.
Et d'ailleurs, ils retournent à Rio à l'occasion des Jeux Olympiques. Ça sera
ils ont tout un projet de spectacle. Mmh. Alors là, carrément, dans le officiellement.
Ça va être un gros
et
truc,
du coup, moi, j'enchaîne sur le travail qu'on fait avec les enfants de Madame Rutabaga, si tu veux bien.
Ah oui, c'est fini là.
Ouais.
Oui.
Alors, du
Madame
coup,
Rutabaga.
Oui, Madame Rutabaga, c'est une association avec laquelle on fait des ateliers de rue, Place des Géants et près du 10-20 de la galerie de l'Arlequin. Enfin,
oui, parce que plus personne ne sait ce que c'est et que c'est un légume, rutabaga, non ?
Oui, c'est vrai qu'on a un peu oublié, du coup, avec cette association qui nous prend.
Frère, sens.
Et donc, avec les enfants des ateliers du vendredi, on a lancé cette idée de fabriquer des émissions de radio, ou en tout cas une petite rubrique. Alors voilà, on bricole. Aujourd'hui, on aura un petit enregistrement de 2 minutes qu'on va écouter. Mais avant ça, donc je voudrais revenir sur cette idée de construire une autre image du besoin de changement à cause de la stigmatisation qu'on fait sur les lieux où effectivement, c'est pas qu'il n'y a pas de problème, mais c'est qu'on ne voit plus que ça, alors que derrière vivent des personnes qui n'ont pas envie forcément d'avoir à se justifier du lieu où ils habitent et qui vivent des choses riches. Et du coup, je vais vous faire juste une petite lecture d'un numéro de Manière de voir, qui est un magazine du monde diplomatique. Donc c'est un numéro qui était sorti en 2010-2011, et c'est un petit texte qui introduit une partie qui s'appelle « La relégation des pauvres ». Donc c'est un petit texte, introductif. « Hausse constante des loyers dans les grandes métropoles ». Opération menée par les pouvoirs publics et les promoteurs pour supprimer tout ce qui leur semble nuire au prestige d'une cité. Disparition de formes de logements destinés aux populations nomades ou précaires, habitat social insuffisant. Les classes populaires subissent une force centrifuge impitoyable. Même la turbulente Marseille voit son centre-ville peu à peu vidé de ses indésirables. À Paris, si la municipalité a relancé la construction des logements sociaux, elle le fait selon une conception bien particulière de la mixité sociale et ne parviendra sans doute pas à atteindre les 20% requis par la loi avant la fin du second mandat de M. Bertrand Delanoë en 2014. C'est un peu vieux. La logique de l'entre-soi, qu'elle soit recherchée, subie ou acceptée comme une fatalité, gagne irrésistiblement du terrain. Riches et pauvres ne se côtoient plus. Le creusement des inégalités se traduit crûment dans la répartition de l'espace. Avec le danger de cette ségrégation, en interdisant à l'œil d'embrasser les différentes composantes qui font une société, empêche aussi l'esprit de saisir les rapports de force qui s'y déploient. Autant que dans un lieu physique, les banlieues françaises sont enfermées dans des représentations qui prétendent en faire la source de leurs propres difficultés, et donc, pour peu qu'elles y mettent la dose suffisante de bonne volonté de leur propre salut. Donc, on ne va pas prendre au pied de la lettre cette introduction un peu noire du contexte stigmatisant sur les quartiers populaires, mais en tout cas, on peut aussi quand même insuffler dans cette représentation par les médias, et notamment c'est ce qu'on fait ici au Ras des Rues, créer une autre image, donner d'autres choses à voir, sans mentir sur les difficultés qui traversent ces quartiers. Et parce qu'elle regroupe en fait une partie de la population qui a des réelles difficultés et qu'il faut dénoncer les sources en fait. Voilà. De ces crises. Alors, on va écouter le petit enregistrement des enfants de Madame Rutabaga, où on essaye du coup de décrire ce qu'on entend par certains mots.
Ok.
Apparemment. Si je dis la place des géants.
Les pots anti-scooters.
Les bâtiments.
Les géants.
La grande place avec des carrés au sol.
Le collège Villeneuve.
Les géants.
La boucherie.
Le taxiphone Gilelli.
Le rimmel.
Le melting pot. Bah, c'est le restaurant à côté du rimmel.
Mais c'est quoi le rimmel? Le rimmel, c'est le magasin du grand-père à Swan et Lynn.
Le casse.
Oui. Mais dis le casse, comprends-tu? Bah, ça s'appelle le rimmel. Mais non, Arsène, elle dit le casse tout le temps. Oui, mais ça s'appelle le rimmel. Allez,
le coiffe, le restaurant de Manel.
La pharmacie.
Centre de santé.
La maison abandonnée.
La maison des bâtiments. La CL.
La maison des habitants.
La crèche.
L'école des trains.
Les arbres devant le jardin des poussées.
Le jardin des poussées.
L'école des...
Si.
Le parking.
Le 30 places des géants.
Le 50 places des géants.
Le 10 places des géants.
Le 20 places des géants.
Le 30 places des géants.
Ah, c'est bon. Okay. Si je dis les immeubles.
Les voisins.
Les gens.
Les coursives.
L'ascenseur. Les allées.
Le miroir dans l'ascenseur.
La barre pour se coiffer. Les exercices de danse.
Les escaliers.
Les balcons.
Les salons et les télévisions.
Les interphones.
La famille.
Les amis.
Les jeux entre copains.
Les fenêtres cassées.
Le repas de famille du dimanche midi.
Le repas de famille le dimanche soir.
Les escaliers qui tournent, qui montent en tournant.
Les grandes fenêtres qui donnent sur l'extérieur.
Les bagarres entre voisins.
Les enfants qui jouent au ballon dans le couloir.
Ou au skate. Ou au skate, ou au vélo.
Ou un roller et un trottinette. Après ça, moi. Là, il coupe, c'est bon. Allez, ça, moi.
Voilà, c'est que les personnes pensent des immeubles, de ce qu'ils voient dans les immeubles. Merci, au revoir.
Voilà. Voilà, donc c'était quelques petites filles des ateliers de rue de Madame Rutabaga de vendredi dernier. Donc on va faire une pause musicale avec un morceau du groupe Fnaïr, qui est un autre groupe de rap marocain, et qui tire ses mélodies de la tourate. C'est apparemment le patrimoine, la tradition. Et donc ce morceau qui s'appelle Lella Mnena, qui en fait est tiré d'une comptine traditionnelle marocaine et qui est réinterprétée en version rap de l'album Un son de blédard. De l'album... Mince, j'ai perdu le nom. Eh ben, je vous le redis à la fin. On écoute.
Thank you. زياد في بلادي كل مرأة كاين حق الراجل اللي مساوي نموت وانا كل شي باين بيها انا راضي يبقى عليك وعليا واخد كنت الله قاضي عمرة نصي تاني بيه نعيش حياتي هاني علاش تكون محكورة وهي ام ولادي كل مرأة كاين في الدين وحنا يعليها غفلين المرأة قرات وعاد خدمات وخلاك حقوقها كاملين متوفي المرأة يا الراجل واحد من مليون شحال حملة ولدت رضعت كبرت علامة ونزول بيتي لحقك وحدك حق المرأة عندك معدومة وبحر التنمية ماشي بوحدك غالي تعوب
Alors, donc, c'était le groupe Fnair, et donc j'ai retrouvé le nom de l'album, c'est L'Aftoua, et qui veut dire l'ouverture, le commencement. Voilà. C'est grâce à Ellie qu'on a la traduction aujourd'hui, en direct. Donc, on va commencer notre interview d'Ellie, qui est donc étudiant en architecture, que moi j'ai rencontré dans le projet Lisière, on en avait un petit peu parlé, qui est un projet donc, d'une classe de Master 1 à
l'architecture avec voilà. des ressources.
Et qui travaille donc sur la rénovation urbaine et le quartier Villeneuve, village olympique, sur plusieurs sites. Et du coup, on s'est rencontrés dans ce cadre-là, et ce qu'on se disait, c'est que ça pouvait être intéressant qu'Ellie nous raconte un petit peu comment il a découvert le quartier, et comment justement travailler sur ce quartier, c'est un peu particulier.
D'accord.
Donc, est-ce que tu veux bien nous refaire une petite...
Bien sûr.
Nous expliquer comment t'es arrivé là.
Je vous explique. Je suis venu en France en 2012. Avant, j'étais au Liban. Et je suis venu en France pour faire mes études. Alors, en 2012, j'ai fait licence, tout ça. Je suis arrivé jusqu'à maintenant. J'ai habité d'abord, je vous dis où j'ai habité à Saint-Martin-d'Air.
Dans des logements
C'était
étudiants.
Des résidences étudiantes, 12 mètres carrés. Ça n'a pas trop bien marché. C'était trop loin de l'école et je galérais avec mes maquettes, tout ça. Surtout, étudiant d'architecture qui ne connaissait pas beaucoup la ville. C'était difficile. Après, on m'a proposé une colocation. C'était vers le terminus du A, du tram A, vers La Poya. Et c'était une colocation avec des personnes âgées. Ça n'a pas trop marché non plus. Après, ça c'est un peu triste, mais c'est pas grave. J'ai vécu 2 jours dans la rue avec ma valise. Comme je ne connaissais pas beaucoup de monde et j'étais nouveau en France, c'était dur pour moi. Et j'ai réussi à avoir, grâce à une assistante sociale pour l'école d'archi, qui m'a aidé à avoir un logement dans le Crous. Et c'est là où j'ai eu mon logement au bâtiment français dans le Crous.
Donc c'est le Crous du village olympique.
Crous du village olympique. Et quand je suis arrivé là, c'était comme tout le monde. Enfin, quand on arrive nouveau dans un quartier, c'est toujours un peu difficulté. On ne connaît pas beaucoup de monde, tout ça.
Mais c'est surtout que tu me racontais que quand t'as su que c'était possible de venir habiter ici, il y a pas mal de gens qui te parlaient en mal du quartier.
C'était déconseillé pour moi. On m'a dit, tu peux trouver ailleurs mieux, n'habite pas là-bas.
Et tu sais pourquoi on te disait ça?
Enfin, je pense... en 2010, il y a eu quelque chose à Grenoble, c'était un peu intense. Et les gens ont gardé cette image dans leur tête. Et ça a joué un rôle très très négatif de comment les gens parlent de ce quartier et de son entourage.
Il faut peut-être rappeler ce qui s'est passé en 2010, du coup. Donc c'est un braqueur qui s'est fait. Un braqueur présumé qui s'est fait tuer en bas de la galerie d'Arlequin.
Ouais.
Et ça, on est suivi trois jours d'émeute.
Voilà, c'était intense à Grenoble, surtout au village.
Nicolas Sarkozy, alors président de la République, est venu faire un discours assez critiqué de quartier en disant, en luant notamment immigration et délinquance. Donc c'est le discours de Grenoble qui a fait un peu date. Donc voilà.
Alors les gens ont gardé cette image et c'est pour ça, peut-être pour mon bien, ils m'ont dit c'est pas bien d'habiter là-bas. Mmh. Et franchement, je vous le dis, jusqu'à maintenant, j'habite au même endroit. Alors, en 2012, bâtiment français. Après, j'ai habité le bâtiment allemand, aussi dans le Crous de Village Olympique. Et je tombe amoureux du quartier. Enfin, franchement, je me sens chez moi. Je me sens chez moi. Je m'entends très bien avec l'entourage. Je connais pas mal de gens.
Et du coup, comment il fonctionne un peu le quartier? Parce que tu nous parles du pavillon allemand, du pavillon français. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment ça s'organise?
Alors, le village olympique, il y a 12 bâtiments. Du Crous village olympique. Alors, il y a trois secteurs. Secteur 1, qui est bâtiment français, autrichien, russe et scandinave, qui sont fermés maintenant. Il y a le bloc 2 qui est de bâtiments suisses, canadiens et tchèques, avec le petit restaurant universitaire qui sont aussi fermés maintenant, sauf qu'il y a le bâtiment canadien où il y a des squatteurs qui sont toujours là. Et le Crous a gardé que le secteur 3 où il y a des bâtiments rénovés et l'allemand qui est partiellement rénové. Alors il y a l'allemand, américain, hollandais et italien.
En fait, chaque bâtiment a le nom d'une nationalité.
La nationalité des joueurs olympiques qui ont participé en 68.
Ok. Ouais. Et donc, toi, tu me disais que tu es arrivé dans le bâtiment français au départ.
Si vous voulez, je peux vous dire un peu un timeline que j'ai préparé pour le village olympique.
Ouais.
De ma façon de voir les choses. Et après plusieurs interviews avec des gens qui connaissent le quartier, des directeurs, tout ça.
Bah, volontiers. Vas-y.
Alors, le village olympique, comme on sait, il était construit pour les Jeux en 68, les Jeux d'hiver.
Mm-hmm.
Et avant, c'était une zone industrielle, un aérodrome. Alors, Grenoble n'était pas prête pour un programme assez large comme ça.
Mm-hmm.
Et alors, en 68, tout était construit, tout était prêt. En 69, ce village a été livré pour les habitants. Et c'est là où on a commencé à voir ce changement international. Avant, il y avait des joueurs internationaux. Maintenant, il y a des habitants internationaux. Entre étudiants qui habitent dans le Crous et entre des habitants, des familles qui habitent vers le village olympique dans toutes les barres d'habitation.
Mmh.
En 80, il y avait un peu de délinquance dans le quartier et c'est là où il y avait des rivalités, ça commence, trafic de drogue, tout ça, tout le monde le connaît.
Mmh.
Et en 2001, il y avait les étudiants qui sentaient un peu peur et se sentaient plus à l'aise chez eux et ça s'est dégradé un peu. Il y a le bâtiment allemand qui était partiellement incendié et le gymnase aussi. En 2004, il y avait l'implantation de grandes barrières qui est assez moche, qui coupe le parc en deux, c'est une clôture qui a dévalorisé l'espace en fait.
Bah, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a les cheminements qui sont même, enfin, vraiment les chemins tracés. C'est... Et en fait, cette barrière, elle vient au milieu. Elle coupe la pelouse, elle coupe les chemins. Elle est même au milieu des chemins. Enfin, c'est vraiment, elle a été posée
c'était,
sans aucune
c'était
modification.
C'était pensé comme ville-jardin. Mmh. Et après, cette ville-jardin était cassée par la présence de cette clôture.
Mmh.
Voilà. Alors, en 2004, il y avait aussi la rénovation du bâtiment allemand, partiellement rénové. En 2005, ils ont rénové les trois autres bâtiments du secteur 3 qui sont américains, hollandais et italiens. Et c'est là
et
où.
Et ceux qui sont à côté de la piscine Iris. De la piscine, enfin, pardon. Oui, des dauphins.
Des dauphins.
La piscine.
Alors, c'est là où les. Un peu de détail. Enfin, à l'intérieur des chambres, on sait que les chambres étudiantes, c'est 9 mètres carrés. Dans les trois bâtiments rénovés, ils ont mis les toilettes et les douches dans les chambres. Sauf ils ont gardé la cuisine commune. Dans le bâtiment allemand, il y a les toilettes, les douches et les cuisines qui sont communes.
Du coup, les chambres sont plus grandes.
Un peu, un sentiment de... Ouais, c'est plus grand. 9 mètres carrés, c'est petit quand même. Et en 2010, un drame a pris lieu. On venait de parler de ça. Mm. Et la propagande a joué un rôle très, très négatif. Et c'est ça qui a resté dans la tête des gens.
Mm.
Alors, en 2012, le Crous trouve beaucoup de difficultés de trouver des étudiants. Et c'est là où moi, je débarque. Et des squatteurs aussi viennent de la Corne de l'Afrique qui s'installent dans un des bâtiments, qui est le bâtiment canadien. En 2015, les secteurs 1 et 2 complètement fermés. Maintenant, il n'y a plus d'étudiants. Il y a des grands murets qui bloquent les entrées.
Et on sait pourquoi ils ont fermé ?
Pour ne pas avoir des squatteurs.
Mais parce qu'ils étaient inoccupés déjà, le bâtiment.
En fait, ils étaient occupés jusqu'à 2014. Et après, tous les étudiants étaient obligés de changer leur logement, ou bien habiter dans un des quatre bâtiments qui sont rénovés, ou bien changer de quartier. Et alors du coup, le restaurant universitaire aussi a été fermé. Ça, c'était pas sympa, parce qu'on était habitués. C'était un endroit vraiment de réunion. De...
Et donc, il était ouvert de quand à... Enfin, les horaires, c'était quoi du...
Où il y avait beaucoup du monde, c'était entre midi et deux, midi et une heure et demie. Mais ça s'ouvrait dès le matin pour préparer aussi... Enfin, ils venaient pour préparer la salle, faire le ménage. Et si on veut boire un petit café, c'était pas refusé, on peut faire ça. Mais le plus du monde, c'était des étudiants qui viennent des écoles qui sont autour. L'architecture, ingénierie, Christophe Turc, tout ça. Et les profs aussi, administratifs. Voilà. Et en 2018, c'est quand, en fait, j'ai projeté mon timeline jusqu'en 2018 pour une raison, c'est que la fête des 50 années des Jeux Olympiques, c'est en 2018. Mmh. Et ça, c'est comme on lance l'appel pour faire quelque chose de ces bâtiments vides, de ce quartier, de ce village olympique qui a une valeur patrimoniale et une sensation de raccrochement des habitants. Et, enfin, il a eu une histoire assez intéressante. Faut pas la négliger comme ça. Et voilà.
Bon, et puis ça rejoint tout le travail que vous êtes en train de faire à l'intérieur de l'école et la contribution que ça peut être pour les idées des habitants, etc. Mais ça, on en parlera un peu plus dans une autre émission. Moi, j'aimerais bien revenir sur... tu me racontais que voilà, la vie collective dans ces logements étudiants, même si en fait vous vous connaissez beaucoup, elle n'est pas forcément favorisée, les espaces sont pas faciles.
De point de vue architecture, je dis que ces chambres, ces bâtiments étaient conçus pour des joueurs olympiques. Ils passaient pas leur temps là-bas.
Mmh.
Alors ça a été fait en petite unité, on peut dire, pour mettre des étudiants. Enfin, les étudiants, ils passent un peu plus de temps là-bas. C'est un peu notre maison. Mmh. On revient chez soi et on a besoin de plus d'espace pour pouvoir vivre en commun. Ça veut dire, je parle de mon bâtiment, le bâtiment allemand. Le bâtiment allemand, il est partiellement rénové. Il y a la cuisine, les douches et les toilettes en commun. Ça veut dire l'îlot central du bâtiment. Il doit réunir tout le monde, en sachant qu'il y a 16 chambres par étage, une petite cuisine de 5 6 mètres carrés, c'est pas suffisant avec deux plaques dessus. Alors, on se trouve, enfin, si c'est fait pour être réunis et communiquer ensemble, tout ça, ça marche pas parce que il y a pas d'endroit pour manger ensemble, il y a pas d'endroit pour faire la fête ensemble. Une salle de travail qui est pas très très grande, 18 mètres carrés. Enfin, ils ont ouvert deux chambres, une sur l'autre. Mais si elle est utilisée par 5, c'est déjà blindé. Et c'est voilà, ça peut, c'est pas fait pour une échelle de d'accueillir tout le bâtiment.
Et ou d'ailleurs, plusieurs dans le bâtiment. C'est aussi pour ça qu'il y avait une salle était attenante au restaurant universitaire qui était fermé.
Mais alors, ce problème-là, c'est aussi, ça a lieu aussi dans d'autres cités universitaires, pas qu'au village olympique. Moi, j'ai vécu dans des cités universitaires à Condillac sur le campus et c'était, c'était le même cas en fait. Mm-hmm. Pareil, on avait des chambres avec juste deux plaques pour une vingtaine de chambres. Et donc je pense pas que ça soit vraiment lié au fait que ça était prévu au départ pour des athlètes. Je pense que c'est le fonctionnement en fait, c'était le fonctionnement global du CROUS dans les années quand ça a été construit dans les 70-80, quoi, de dire.
Oui, mais ça
les étudiants pas besoin de. Enfin, oui, c'est sûr. Après, voilà. Ça a besoin de rénovation, des choses comme ça. Mais
voilà. Bah, ce qui est étonnant, c'est que ça, c'est l'État après rénovation en 2005.
Ouais.
Et c'est un peu inquiétant quand même sur l'évolution des besoins de partage, de création de liens entre les gens. Enfin,
mais cas, si voilà, on veut parler des trois autres, si on veut parler des trois autres bâtiments qui sont rénovés, il y a quatre plaques, il y a un endroit pour manger, mais c'est pas très convivial. Enfin, on se sent pas bien de rester plus qu'une demi-heure dans la cuisine. C'est fermé, il y a pas de fenêtre. Respiration. Enfin, c'est un peu comme si on est dans une chambre fermée. Quoi.
Ok.
Voilà.
Bon. On a encore quelques minutes.
Et du coup, tu travailles un peu sur le CROUS, en fait.
Ça fait plaisir, en fait, de vivre et travailler sur le même endroit.
Parce que toi, étudiant en école d'architecture, tu es amené à travailler.
J'ai eu le site où j'habite.
D'accord.
Voilà. Et ça fait vraiment plaisir. Et je trouve du plaisir dans mon travail parce que je connais bien les locaux, je connais bien les lieux, je connais un peu d'habitants. Je sais comment prendre ce sujet qui était vraiment difficile pour durant plusieurs années et travailler dessus.
Mais t'as pas peur de manquer de neutralité à un moment donné ?
La neutralité, enfin, dans un projet d'archi, la neutralité, c'est pas un des critères qui est. Enfin, il faut trouver pouvoir s'éloigner de. Mais en même temps, je me prends en tant qu'habitant. Voilà, et si je fais un projet, c'est pas pour une unité, c'est pour plusieurs. Et. Enfin, ça peut jouer que dans le sens positif.
Et puis, est-ce que le fait d'habiter évite pas qu'on fasse un projet avec les stéréotypes qu'on aurait si on connaissait pas le quartier, justement?
Oui, certainement, oui. Mais après, le fait d'y habiter peut aussi entraîner le fait que cette chose nous tienne tellement à cœur qu'on est moins ouvert aux critiques ou des choses comme ça. Mais après, c'est voilà, c'est
toute une question de. De toute façon, l'architecte n'a jamais été ouvert à la critique, hein, je veux dire.
On s'est amassé là-dessus.
Merci pour le
mouvement. J'entourais de deux architectes. Donc,
non, mais c'est vrai que la critique de l'architecte, c'est un truc qui n'est pas évident.
Mais du coup, vous êtes nombreux étudiants en architecture à habiter dans cette cité universitaire.
En fait, je connais pas mal d'étudiants d'archi qui habitent ici. De licence 1, de L2, tout ça, mais ces étudiants, ils durent pas beaucoup, ils restent une année. Moi, ça fait 4 ans que j'habite là, et d'ailleurs, c'est là, franchement, j'ai la curiosité de savoir pourquoi ils ont pas resté plus. ils sont toujours à l'école, mais ils sont plus au village olympique. J'aimerais bien savoir qu'est-ce qui leur a fait bouger.
Est-ce qu'ils sont pas partis en colocation pour avoir plus d'espace?
Ouais, peut-être le manque de
liens.
C'est vrai qu'à Grenoble, c'est quelque chose qui est assez facile jusqu'à maintenant de trouver des colocations pour payer pas cher.
Bien sûr, mais ce qui me fait rester ici, déjà je me sens bien, je connais l'entourage, il y a tout ce qu'il faut autour. Et c'est à 2 minutes de mon école. Alors entre midi et deux, si je veux rentrer chez moi, je peux rentrer, je peux me reposer, je peux... voilà, c'est plus facile à vivre comme ça pour moi. Surtout que j'ai pas de, de connaissances en France. Enfin, j'ai des connaissances, j'ai des potes, mais j'ai pas de la famille. Je suis seul. Et ça me facilite ma vie.
Et c'est beaucoup d'étudiants internationaux ?
Ah, si je vous liste les si je vous liste les nationalités, mais... franchement, il y en a beaucoup de tous les coins du monde. C'est vraiment international.
Ok. Et tu voulais, parce que là, on approche de la des quelques dernières minutes de notre émission.
Oui.
Et tu m'as dit que t'aimerais bien nous chanter une chanson.
C'est une petite partie d'une chanson, juste qui me fait penser à mon pays, au Liban. Et je la partage avec vous, ça marche.
Allez, lance-toi.
Allez. C'est un mouel. Mouel, c'est le début d'une chanson. Mouel. En arabe, c'est mouel, je sais pas en français. Alors. Lebnan, jenni m'addassi, wa t'khatru fiha. هيدي وصي مكرسي ومجد الرب حاميها الأنبياء مشوا على تراباتها على تراباتها على تراباتها والأرز فوق جبالها حامي شواطيها حامي شواطيها ولبنان رح يرجع والحق ما بيموت والشمس رح تطلع زي سما بيروت.
Alors j'ai compris Beyrouth à la fin.
C'était super, merci beaucoup.
Et comment s'appelait la chanson?
Pardon?
Comment s'appelait la chanson?
Ça s'appelle Lebnan Jenni M'addassi, c'est Liban. Un terrain qui est béni.
Ok, super.
Pas un terrain, plutôt c'est la Jenni, c'est le paradis. Un paradis qui est béni.
Voilà. Bon, bah, t'as inauguré une nouvelle expérimentation, le chant en direct dans
l'émission.
La
semaine prochaine, c'est Morgane qui s'y colle.
Aura des rues. Moi, je vous chanterai une souris verte, peut-être.
J'espère que c'était bien, en tout cas.
C'était très bien,
c'était
merci.
Superbe. Merci beaucoup.
De rien.
Par contre, je crois que t'as explosé les micros de Patricio. On vous laisse à la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Aura des rues.
C'était Au ras des rues, l'émission qui, espérons-le, vous a fait prendre de la hauteur sur Radio Kaléidoscope 97 FM. À la prochaine.